Sébastien Devrion.
Bonjour.
C'est un honneur de vous rencontrer avec De Ribes. Vous êtes là pour le film que vous avez consacré à la fois à son œuvre, à sa personne, à sa vie, la vie de sa famille. De Ribes, une vie dessinée. Ça s'est passé, cette rencontre, sur une sorte de boutade qui vous a lancé lors du film Troyer, toujours aventurier.
Oui, Jean Troyer, toujours aventurier. Ouais. Il faisait partie de ce film parce que c'est un ami de Jean Troyer. Et donc, je l'avais filmé à cette occasion. Et il est venu à la première. Puis c'était une boutade, je pense, parce que c'était pour me dire qu'il avait beaucoup aimé le film. Puis il m'a dit comme ça, oh, c'était super, alors le prochain, c'est sur moi. Juste pour rire. Mais moi, je l'ai pris au beau. Je lui ai dit attention à ce que tu dis. Hein. Et puis ça, c'était en 2016. Donc 10 ans après, c'est bon. Enfin, 9 ans après, c'est bon.
Il y a eu la pandémie, c'est ça qui a un peu retardé peut-être déjà son travail sur La Promesse, ce livre qu'il consacre à la Dent Blanche.
Oui, il y a eu. Ben, c'est-à-dire que d'abord, c'est un ouvrage assez important et long à faire. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps et tout d'un coup, il y avait un Yakari qu'il devait faire. On a arrêté La Promesse, il a fait un Yakari. Mais moi, ça m'a permis de filmer un peu la création d'un Yakari. Puis ensuite, il a eu un problème de santé. Non, d'abord, il y a eu la pandémie. Et ensuite, il a eu un problème de santé. Il a dû se remettre d'aplomb pour se repréparer à redessiner et à être à la hauteur, comme il le dit. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui dit. Il a dû se remettre à redessiner pour être à la hauteur de ce qu'il faisait avant. Et du coup, La Promesse sonnait de façon différente. Il devait tenir sa promesse de finir La Promesse. Donc le titre a pris une valeur tout à fait plus grande que ce qu'elle n'était au début, quoi.
Et surtout, La Promesse, ça vous réunit pour votre amour de la montagne, de la nature. Et puis, je crois que vous connaissez bien le Val d'Hérens aussi, en Valais.
Ben oui, c'est ça qui est fou. C'est que quand je suis allé voir De Ribes pour lui proposer de réellement m'attaquer à ce film, il m'a parlé de son projet sur l'ascension de la Dent Blanche. Il voulait faire une BD sur l'ascension de la Dent Blanche. Et là, on a commencé à discuter sur le Val d'Hérens. Il se trouve qu'on connaît beaucoup de monde en commun. Par exemple, la prof de ski que j'avais quand j'avais 3 ans, André Fauchère, c'est une grande amie de Ribes. Donc on a eu tout d'un coup plein de points communs comme ça. Puis la Dent Blanche, elle m'a marqué très fort parce que quand j'étais tout jeune, je voyais cette Dent Blanche. J'allais skier une fois par année, une semaine, c'était très, très court. Hein. Mais je voyais cette Dent Blanche et la légende voulait que dans le chalet dans lequel on était, il y avait un vieux piolet qui était au mur. La légende nous disait que ce piolet avait fait la Dent Blanche. Et moi, ça m'avait marqué et fasciné. Et puis, peut-être que c'est grâce à ça que ça a fait pousser chez moi l'envie de faire de l'alpinisme. Et comme d'ailleurs les albums de Ribes. Donc, Ribes, moi, j'étais abonné, j'habitais en Bourgogne, et ma maman m'avait abonné à Yakari, au magazine Yakari. Donc, je lisais le magazine Yakari que je recevais, j'attendais avec impatience. Et ensuite, il y a eu Buddy Longway. Et Buddy Longway, pour moi, c'est une œuvre majeure. Parce que Buddy Longway, c'était la nature, l'aventure, la vie dans la nature. Ça m'a beaucoup marqué, quoi.
Une symbiose avec la nature aussi.
Une belle symbiose avec la nature, la beauté de la nature. Mm-hmm. Ça m'a vraiment marqué. Et ça a certainement développé chez moi une envie d'aventure, en fait, d'enfant, hein, d'aventure. Puis il y a une autre chose qui m'a marqué aussi très fortement, c'est la façon dont il construit ses pages. C'est-à-dire le découpage de ses cases, je trouve que c'est très, très cinématographique. On a l'impression qu'on est dans un film. J'avais lu plein d'autres BD. Hein. Moi, j'adore la BD. Mais celle-là, Buddy Longway, m'a vraiment marqué. Et après, Celui qui est né deux fois, et puis Red Road, ça m'a vraiment marqué au niveau scénaristique, même de mise en scène des images, quoi. Et peut-être que ça aussi, ça a généré chez moi, ça a mis une petite graine qui a poussé après pour devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire réalisateur.
Bon, De Ribes a dit qu'il y avait des lecteurs qui étaient amoureux de Chinook, je viens d'en trouver un.
Oui.
Moi, c'était Buddy Longway. Mais surtout, ce que vous dites, Sébastien, c'est qu'il y a cette façon de faire des plans différents, comme au cinéma.
Oui, c'est ça.
Avec des perspectives.
Avec des perspectives, des découpages. Je ne sais plus dans quel album, parce que je ne l'ai plus en tête, mais il y a une première page, quand on ouvre un Buddy Longway, on ouvre la page et on voit un grand paysage fait qui prend toute la page, mais qui est coupé en 3 parties. Et c'est tout le même paysage, mais on voit un petit point sur la première case, un deuxième point un peu plus près. Puis en fait, on découvre que c'est une femme qui tient un enfant et qui pleure. Mais c'est comme si on avait une sorte de plan séquence avec un zoom. Enfin, c'est construit très, très visuellement. Et puis, dans la BD qui s'appelle « Celui qui est né deux fois », il fait un truc qui est vraiment formidable, c'est pendant les 5 premières planches, il n'y a pas de dialogue. Donc c'est uniquement de la narration par l'image. ce qui se fait dans les films où il y a des moments où les gens ne parlent pas. C'est juste une narration par l'image, par un découpage de plans qui permet de raconter une histoire. Et c'est lui qui m'a dit ça, mais à l'époque, c'était très novateur de faire 5 pages sans avoir de dialogue. C'était un truc, mais comment, c'est pas de la BD. Puis en fait, oui, c'est de la BD quand même.
Et on songe aux autres bandes dessinées de l'époque, les années 60, c'était avec des bulles, et puis des petites cases, des grandes cases comme ça qui présentaient tout un paysage, c'était vraiment novateur.
C'était très novateur, oui. C'était très novateur, et ça laissait une belle place, justement, à la nature. Et moi je sentais, je le sens toujours évidemment, mais je sentais déjà, quand j'étais enfant, la force et, l'importance du paysage et de la nature. Et ça m'a bien marqué dans mon enfance, et ça a certainement généré chez moi cet amour de la
passion.
Nature que j'ai. Ouais, ouais.
J'ai lu que vous étiez né à Lausanne.
Je suis né à Lausanne, oui.
Ouais, vous aviez donc les Alpes en face de vous, le Mont Blanc, et puis après vous êtes parti en Bourgogne.
Non, je suis né à Lausanne parce que mon père est en Suisse, je suis juste né à Lausanne, je suis reparti tout de suite en Bourgogne. mon univers était plutôt bourguignon.
Et donc plutôt le Jura.
Ouais, même pas tellement. Les seuls moments où on allait à la montagne, c'était justement dans le Val d'Airain, en hiver un petit peu, et puis en été, on est allé deux fois à Bréhonne, c'est les alpages qui sont au-dessus de la Forclaz, où d'ailleurs Derib est aussi allé, donc on a tous ces points communs qui sont arrivés ensemble. Et puis non, en Bourgogne, j'ai commencé par faire de l'escalade. Il y a des falaises en Bourgogne, et puis c'est là que j'ai commencé à faire de l'escalade.
À boire du vin.
Boire du vin, je l'ai fait plus tardivement.
Et cette passion, parce que vous avez parcouru le Groenland, mais aussi le Pakistan, l'Himalaya, le Népal. Cette passion, et puis vous êtes allé plonger dans le lac le plus élevé au monde.
Oui, on a fait une tentative.
En Argentine.
On a fait une tentative. On voulait aller plonger dans le lac le plus du monde avec un.
El Ojo del Salado.
El Ojo del Salado, oui.
Ouais.
Et puis, on est parti avec mon ami Frédéric Zewadzinski, qui est un plongeur juste incroyable et qui fait de la plongée souterraine. Lui, c'est ça son truc. Puis, on s'est rencontrés lors d'un festival où je présentais un film, un festival d'aventure. Lui présentait aussi un film. On a bien connecté tous les deux. Bien sûr, c'était des mondes très différents. La haute altitude et la plongée, c'est quelque chose qui ne se marie pas tout de suite. Puis, on s'est promis qu'on allait réussir à faire une aventure ensemble. Et puis voilà, c'était de se dire, on va aller à la rencontre des lacs les plus hauts de la planète. Et il se trouve que c'est sur le Ojo del Salado, qui est un volcan en activité, et qui est certainement la raison pour laquelle il y a des lacs très très hauts, à cause de la chaleur du sol, quoi. Mais malheureusement, on a fait un film qui s'appelle Une goutte d'eau sur un volcan. Et malheureusement, quand on est arrivé là-haut, il y avait une sécheresse colossale qui s'était passée, et on a eu même du mal à trouver de l'eau pour boire, alors que... On était en autonomie, donc on était deux simplement. Donc on portait tout notre matériel. On était en train de porter du matériel de plongée en se disant « Mais qu'est-ce qu'on va boire ?» Et puis il se trouve que le lac qu'on visait n'existait pas. Mais on s'est dit « Bon, on va quand même pas redescendre avec notre matériel plein. Il faut quand même qu'on trouve un endroit pour plonger. » Et on a trouvé un joli endroit pour plonger. C'était encore plus merveilleux que tout parce qu'il y avait de la vie à l'intérieur. Ça, c'était magique.
Et la plongée, vous êtes initié pour faire ce film avec cet ami ?
Je faisais de la plongée déjà, mais de la plongée, je dirais, traditionnelle, quoi. Mais maintenant, suite à ce film qu'on a fait ensemble, il m'a dit « Bon, maintenant que tu m'as emmené en altitude, maintenant je vais t'emmener sous la terre. » Et maintenant, je fais de la plongée sous la terre avec lui. Et voilà, maintenant, je considère que je n'étais pas vraiment un plongeur avant. Maintenant, je suis devenu un peu plus un plongeur.
Et vous entendez la terre s'exprimer, d'ailleurs ?
Pardon ?
Il paraît que la Terre s'exprime.
La Terre s'exprime ?
Oui, il paraît qu'on entend des sons.
Oui, on entend. Alors, on entend. Surtout qu'on plonge avec un système de recycleur, donc on n'a pas le bruit des bulles. Donc, on a beaucoup plus de possibilités d'entendre ce qui se passe sous l'eau. Mais ça veut dire qu'on peut aussi se parler. On arrive plus facilement à se parler. Mais non, c'est un univers qui est complètement fou, parce que c'est un univers très exploratoire. Et je trouve ça passionnant parce qu'il y a quelque chose de spatial quand on va sous la Terre. C'est-à-dire qu'on flotte entre deux eaux, dans un univers inconnu. Alors moi, je suis. C'est lui qui est devant et qui tire le fil d'Ariane. Et puis moi, je suis et puis j'essaie de filmer.
Et puis en plongée, il y a ce sentiment de silence, mais habité.
Alors, le monde du silence, c'est un titre de film de plongée. Le silence sous l'eau, il n'est pas tout à fait comme ça. Il y a beaucoup plus de bruit que ce qu'on pense, surtout dans la mer. Parfois, dans les grottes, il y a un peu moins de bruit. Mais dans la mer, il y a toujours du bruit.
Sébastien, que ce soit la goutte sur le volcan ou par exemple le Groenland, avec ce réchauffement, tout ce qui se passe sur la planète, ça doit vous préoccuper ?
Ah ben, bien sûr, c'est préoccupant, c'est sûr. C'est sûr que c'est préoccupant. On voit que les choses changent très fort et très vite. Maintenant, moi, je me refuse d'être alarmiste parce que bien sûr que c'est très, très, c'est très dangereux pour nous tous. Mais je pense qu'à travers les choses difficiles qui arrivent, on a toujours quelque chose à trouver. Et je pense qu'au lieu de se plaindre, il faut essayer de trouver des solutions. Et trouver des solutions, c'est quelque chose qui est très gratifiant quand on arrive à trouver des solutions. Et c'est joyeux d'essayer de trouver des solutions, quand on les trouve. Mais tout le cheminement, c'est aussi une chance d'essayer de trouver des solutions. Et l'idée de s'adapter à notre environnement, c'est quelque chose qu'on oublie un peu. Et parfois, il faut se rappeler que oui, il faut s'adapter à l'environnement. Et puis même si c'est nous-mêmes qui le mettons en danger, eh ben, il faut trouver des solutions pour pouvoir s'y adapter aux problèmes que nous-mêmes, on a peut-être fait, quoi.
Mais c'est aussi un stimulus pour l'humanité.
J'espère.
Pas toute l'humanité, malheureusement.
J'espère. Je ne peux pas être très optimiste, mais j'espère que ça peut être... En tout cas, c'est un point de vue que j'essaie d'avoir, de me dire que quand il y a un problème, c'est l'opportunité de trouver une solution.
Pour revenir à De Rib, une vie dessinée, par moments, il y a des clichés qui ont été pris par Arnaud, et j'imagine par vous aussi, sur la Dent Blanche, et qu'après, De Rib, il a puisé son inspiration pour les dessiner.
Ouais, alors la chance que j'ai eue, c'est que l'idée de faire cette BD, de filmer cette BD avec Arnaud qui était au scénario, et de proposer à Arnaud de faire la Dent Blanche lui-même, ce qu'il avait très envie de faire, ça lui permettait deux choses. Ça lui permettait de pouvoir vivre l'aventure, enfin l'ascension concrètement, et de pouvoir la retranscrire à travers son scénario dans la BD. Et puis moi, j'ai filmé toute son ascension. Et c'est ces images qui ont permis à De Rib de graphiquement choisir ce qu'il avait envie de dessiner. En plus, son fils est dessiné dans la BD. C'est lui qui joue le rôle du guide dans la BD. Et donc, c'était aussi bien parce qu'il pouvait voir Arnaud en ami d'alpiniste avec son casque, son sac à dos, etc. Et pour moi, c'est vraiment...
En tant que guide montagne, très longtemps, ça a dû tout de suite vous parler.
Bah oui, ça m'a parlé. Puis c'est quand même assez incroyable. Moi, j'ai 53 ans et je ne sais même plus quel âge j'avais quand j'ai ouvert la première fois une BD de Yakaris, parce que j'étais petit, puis après Buddy Longway et la suite. Puis de me retrouver à cet âge faire partie de... Grâce aux images que j'ai pu tourner, faire partie d'une BD dessinée par De Rib, c'est un cadeau énorme. Et c'est vrai que cette aventure de la création de cette BD et de ce film se sont à un moment donné mariés pour... c'est-à-dire le film a apporté quelque chose à la BD. Évidemment, la BD apporte quelque chose au film. Ça, c'est l'évidence même. Ça, c'était un peu le principe. Mais je ne pensais pas que le film allait apporter autant à la BD, quoi.
Et ce film, il nous surprend parce qu'on peut imaginer que c'est une sorte d'hommage. On se disait peut-être que c'est un géographique, et non, pas du tout. C'est comme si on ouvrait des tiroirs différents ou un coffre dans le grenier qu'on trouve plein de souvenirs et en même temps qui correspondent à l'actualité.
Oui, c'est ça. Moi, je n'avais pas du tout envie de faire un film sur le passé. J'avais envie que ça s'ancre toujours dans quelque chose qui se passe au moment où on est dans l'atelier de De Rib. Et je voulais le voir travailler. Et donc, on a eu cette idée de suivre cette BD La Promesse. Puis quand il s'est arrêté parce qu'il fallait faire un Yakari, on faisait un Yakari et c'était toujours pour de vrai. Et puis, on a réussi à le faire parce qu'à la fin, on voit De Rib qui est en train de mettre le dernier coup de feutre sur le mot fin. Et donc, on a vraiment suivi l'entièreté de la BD, quoi.
Et aussi, vous avez inséré les images de la famille De Rib au Pierre. Et là, vous avez choisi la couleur sépia.
La couleur sépia, c'est parce que si vous faites référence aux images d'archives tournées par François de Rébeaupierre, elles sont faites en film et elles sont très vieilles. Et donc, elles sont, on les a gardées telles quelles. Ce n'était pas un choix de couleur, c'était juste que c'était tourné comme ça.
Vous les conservez sans les digitaliser ?
Alors, elles étaient digitalisées par je crois que c'est la Cinémathèque de Martigny. Et c'est eux qui ont la gentillesse de nous donner les rushs et qu'on... desquels on a pu monter cette petite partie qui est très touchante, je pense, sur le Val d'Airain de l'époque, quoi.
Et comment ça s'est passé entre Arnaud, Derib et vous? C'était une émulation constante?
Oui, je crois que c'est très... Moi, j'ai eu le sentiment d'être un témoin privilégié de tout ce qui était en train de se dérouler et de pouvoir observer et être le média qui permet de voir Derib travailler avec son fils au scénario, ce qui permettait qui se cristallise sur l'ascension de la Dent Blanche, avec comme souvenir le grand-père François Derib, le père de Derib et le grand-père d'Arnaud,
François
le peintre, qui a beaucoup, beaucoup peint la Dent Blanche. Tout d'un coup, j'avais le sentiment qu'il y avait comme ça trois générations d'artistes qui se cristallisaient sur l'ascension de la Dent Blanche. Et Derib n'a pas fait la Dent Blanche, mais moi je considère qu'il l'a faite parce qu'il l'a fait par le trait.
Par le dessin. Mmh. Merci Sébastien, bon succès à Derib, une vie dessinée.
Merci
qui sort
beaucoup.
Sur les écrans.
Oui, merci beaucoup. Merci.